Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Avoir Emmanuel Macron il y a deux mois mettre en scène de manière on ne peut plus solennelle la signature des ordonnances modifiant le droit du travail, on pouvait penser qu'il s'agissait là de conclure la discussion sur le sujet. Il n'en était rien. La preuve, un vote aura lieu mardi à l'Assemblée nationale sur les 5 ordonnances avant que celles-ci soient transmises au Sénat. Le débat n'était donc pas clos, on avait failli l'oublier. Il faut dire que contrairement à ce qui était attendu, la contestation a été faible. Les mobilisations contre la réforme du droit du travail ont peu rassemblé, de moins en moins au fil des journées, bien en deçà en tout cas de ce qu'avaient pu être les manifestations contre la loi El Khomri. La confusion sur le calendrier législatif y est peut-être pour quelque chose, mais c'est sans doute la méthode du gouvernement d'une part et la stratégie peu lisible des syndicats d'autre part qui explique en partie cette décrue. Pour l'instant, Macron a le point, a commenté Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, en effet, car rien ne dit qu'une fois définitivement adoptée, la réforme du droit du travail ne fera pas l'objet de nouvelles contestations, mais cette fois dans le cadre des entreprises. Alors, loi travail comme une lettre à la poste, c'est la discussion autour de laquelle nous allons confronter quelques points de vue ce soir, en direct donc et en public du Bar Le Bel Air à Radio France, avec deux des membres de notre club. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, V.
Le tour du monde des idées, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 11h53 sur France Culture. On peut également vous lire dans vos chroniques pour le magazine Le Point. L'autre membre, c'est Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, votre cabinet, c'est Footprint Consultant. Je vais avoir du mal ce soir, j'ai l'impression. Vous tenez des chroniques dans le magazine Challenge. Et puis ce soir, nous avons un invité, comme on le fait de temps en temps le vendredi. Il s'agit de Jean-Marie Pernaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRES, Institut de recherche économique et sociale, ainsi qu'au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Alors je préviens d'ores et déjà nos auditrices et nos auditeurs, nous allons consacrer deux émissions à cette loi travail, peut-être pour clore le sujet. Philippe Manière fait des grands yeux. Non, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois que vous viendrez, vous ne serez pas obligé d'en discuter. On va y revenir lundi, c'est-à-dire à la veille du vote solennel à l'Assemblée nationale. On y reviendra pour évoquer avant tout peut-être le fond des réformes et le fond des 5 ordonnances ce soir. L'idée, c'est qu'on soit peut-être davantage sur la forme, même si on dira sans doute aussi un mot du contenu, mais essayer de comprendre comment, finalement, le gouvernement a réussi à manœuvrer pour que cette nouvelle loi travail suscite aussi peu, semble-t-il, de contestation. Est-ce que, d'ailleurs, on peut d'ores et déjà dire que cette loi travail, c'est une victoire politique pour Emmanuel Macron, Brice Couturier ?
Bah, c'est évident, oui. C'était probablement la mère des batailles pour lui, puisque c'était si celle-ci passait, les autres vont s'en suivre, parce qu'il faut voir que Emmanuel Macron a dans l'idée un ensemble de réformes extrêmement radicales de ce pays sur le plan social et économique. Et les gouvernements précédents s'étant essayés, maladroitement peut-être, à cette réforme du Code du travail, dont chacun sait qu'il est vertigineusement imposant et qui comporte de très nombreux blocages pour notre économie, sous ces gouvernements précédents c'était cassé en réalité sur l'opposition forte des syndicats et de la gauche radicale. Aujourd'hui, on voit bien qu'effectivement, il y a une espèce d'épuisement des troupes, que la dernière manifestation des syndicats a réuni 8250 personnes à Paris, c'est-à-dire finalement moins que les permanents des syndicats. Donc c'est vraiment très très peu de choses. Oui, il y a l'opposition radicale à Macron est en déroute. Et c'est très important pour lui parce qu'effectivement, les autres réformes sont conditionnées par la réussite de celle-ci. Parce qu'encore une fois, c'est la mère des batailles. Lui, il a réussi là où Sarkozy et Hollande en particulier avaient échoué.
Donc il y a autant d'habileté du côté du gouvernement, selon vous, Brice Couturier, que peut-être de défaite, on va dire, et de désorganisation du côté des opposants à cette loi travail. On va y revenir.
Et surtout une forte légitimité du président qui vient d'être élu avec une très forte majorité à l'Assemblée nationale.
Alors,
ça s'appelle la démocratie.
Ce sera sans doute un des éléments du débat, mais on peut dire que François Hollande, lui aussi, avait une légitimité, parce que je vous le rappelle, il avait également été élu par le suffrage universel à la présidence de la République. Jean-Marie Pernaud, sur l'idée que Emmanuel Macron peut dire qu'il est victorieux de cette bataille sur la loi travail. Est-ce que le terme de victoire vous paraît approprié ou bien est-ce que c'est encore un peu tôt dans la mesure où, rappelons-le, le travail législatif sur cette loi n'est pas encore terminé ?
Oui, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Bon, sur le plan instantanément, il va de soi qu'il ressort victorieux de cette affaire, encore que c'était un peu dans la nature des choses, puisque Brice Couturier a rappelé l'élection, légitimité électorale toute neuve, une assemblée où il est largement majoritaire, et de plus, il avait annoncé qu'il ferait ça.
C'est la différence avec Hollande.
Voilà, c'est une différence avec Hollande. Donc, il avait annoncé, même si certains ont pu être surpris du contenu des ordonnances, en tout cas, l'annonce avait été faite. Donc, instantanément, on peut dire... Mais je pense que lorsqu'on touche à quelque chose d'aussi important que le Code du travail, qui quand même a fait l'objet historiquement de très longues discussions, d'accommodements, si on revient, il a fallu 10 ou 15 ans au début du XXe siècle avant de mettre en place ce qui sera rassemblé sous forme de codification en 1910. Lorsqu'on s'attaque à ça, qu'on inverse un peu la logique de manière assez radicale quand même dans cet édifice, c'est sur la durée qu'il faudra juger de la victoire ou non. C'est-à-dire, tout ça a été présenté, notamment pendant la campagne électorale, comme une condition pour débloquer l'emploi en France. Alors on l'a moins entendu dans la période récente. On a commencé à nous dire « Ah mais non, mais vous savez, là... » faciliter les licenciements, etc. C'est vrai que ça ne crée pas instantanément de l'emploi. C'est un passage nécessaire, mais qui ne produira pas de réponse immédiate. Ce que disent d'ailleurs tous les organismes internationaux. Enfin, l'OCDE dit la même chose.
La preuve avec les chiffres du chômage qui viennent de tomber, qui sont en légère hausse.
Donc, les objectifs ont l'air de bouger un petit peu. Mais je pense que par rapport à l'espoir qu'il a pu faire naître dans certaines catégories de la population d'une réforme radicale qui libère les énergies, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu de temps pour voir si ça va marcher. Et le diagnostic aussi sur l'extinction du mouvement social. Alors là-dessus, bon, les chiffres parlent, effectivement. Il n'y a pas eu de mouvement social. Il y a eu un premier mouvement le 12 septembre qui n'était pas un échec, parce que le 12 septembre c'est proche, il y avait un peu de monde, etc. Mais la suite a bien montré que les conditions n'étaient pas là, les stratégies syndicales n'étaient pas là, et probablement dans l'opinion, en tout cas celle des travailleurs potentiellement concernés par tout ça, on n'en était pas encore là. Maintenant, on en a pour 5 ans. Mère de toutes les batailles, je ne sais pas, mais il y a encore quelques dossiers sérieux derrière. Et puis aussi, il y a l'effectivité, parce que c'est bien gentil de faire des lois, mais après c'est dans l'introduction, dans la réalité que les choses vont probablement commencer à cristalliser des oppositions.
Alors Jean-Marie Pernaud, vous nous avez fourni le plan là, de la discussion pour ce soir. Je voudrais poursuivre et terminer ce premier tour de table avec vous, Philippe Manière. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas pour revenir à Emmanuel Macron, que le fait qu'il ait décidé, déjà qu'il ait annoncé qu'il allait réformer le droit du travail pendant la campagne électorale, et qu'il mène cette réforme en début de mandat, contrairement à François Hollande qui, lui, ne l'avait pas annoncé et qu'il a fait à la fin de son quinquennat, ça change tout.
À ce titre, je reprends ce qui a été dit par les deux précédents intervenants. C'est-à-dire que, d'abord, en démocratie, quand quelqu'un est élu sur un programme, il est assez naturel qu'il l'applique. Et franchement, il n'y a qu'en France qu'on soit surpris qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un troisième tour social, ce qui n'a strictement aucun sens politique.
Sauf à remettre en cause l'idée que quand on est élu, c'est sur un programme.
Mais oui, alors ça devient un peu compliqué de remettre en cause ça, parce que sinon on met en cause aussi les élections pendant qu'on y est.
Non, pas forcément, mais il peut y avoir d'autres raisons de voter pour quelqu'un que son programme. Non, je comprends, mais
pour aller jusqu'au bout de la provocation, quand Margaret Thatcher a été élue, je sais que son programme était autrement radical que celui de Macron, il y a certes eu des résistances, en particulier là où justement elle portait le fer de la manière la plus vive et parfois même cruelle, mais personne au Royaume-Uni n'a contesté sa légitimité parce qu'elle avait une majorité au Parlement de mettre en œuvre les réformes qu'elle avait annoncé. Donc il y a vraiment, je crois, dans ce qu'on est en train de débattre ce soir, une forme de retour à la normale de la France par rapport à l'esprit de la démocratie. Il y a grosso modo qu'en France, qu'on trouve normal qu'à peine une élection a eu lieu, déjà on conteste la mise en œuvre du programme sur lequel le vainqueur a été élu. Bon. Deuxième point, effectivement, le contraste avec Hollande est très frappant, parce que d'abord Hollande n'avait pas annoncé ça lors de son élection, mais même pendant les deux ou trois premières années de son mandat, il a envoyé de très nombreux signaux qui allaient dans l'autre sens. Alors sur d'autres terrains, mais typiquement sur la fiscalité, il a été extrêmement à gauche, pour faire simple. Et donc, lorsqu'au milieu de son mandat, il se met à faire des réformes qui sont, à tort ou à raison, décrites comme de droite, on peut comprendre que le peuple de gauche, et en particulier le mouvement social, se sente trahi, et même doublement trahi. Mais je crois qu'il faut en venir à ce que vous évoquiez dès le début de notre échange, c'est-à-dire l'habileté de Macron. Moi, je crois, et c'est là où je crois que je veux être en léger désaccord avec Brice Couturier, que si tout ça est passé comme une lettre à la poste, puisque c'est le thème de l'interrogation que vous nous soumettez ce soir, c'est aussi largement parce que cette réforme n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas spectaculaire. Par exemple, par rapport à la loi El Khomri, qu'on a évoquée tout à l'heure et qui avait de fait mobilisé beaucoup plus, il n'y a pas du tout cette espèce de tabou, cette violation d'un tabou, c'est ce renversement de la norme qui avait été évoqué au moment d'El Khomri, très marginalement.
Comment ça, il n'y a pas du tout? Il y a quand même beaucoup.
Non, il n'y a pas.
Elle va bien plus loin que la loi El Khomri.
Non, pas du tout. Elle va moins loin que la loi El Khomri.
Ah, donc c'est un retour en arrière pour vous?
Non, je ne dis pas que c'est un retour en arrière, parce que la loi El Khomri, je parle de la loi El Khomri, au départ, avant les très nombreux amendements qui l'ont très fortement dénaturé.
Moi, je parlais de la loi telle qu'elle
est. Non, mais la loi El Khomri, ce qui a fait les agresseurs dans les gens dans la rue, ce n'est pas la loi telle qu'elle est sortie du Parlement, c'est le projet de loi. Et on peut le comprendre, parce qu'il était justement assez radical, en particulier sur un sujet fondamental qui est l'inversion de la norme. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, est-ce qu'on peut déroger à la loi par des règles particulières, par le contrat? La loi El Khomri ouvrait de ce point de vue-là une porte beaucoup plus grande à cette dérogation que la loi Macron. Après les amendements au Parlement, il en restait beaucoup moins. Mais la mobilisation suscitée par la loi El Khomri était à mon avis, compréhensible compte tenu du caractère très attentatoire à nos habitudes éternelles et, pour dire le vrai, à ce qui est normalement un principe fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger dans des domaines d'ordre public à la loi par des contrats particuliers. Donc il y a ce côté faible de la loi qui justifie qu'on ne s'affole pas trop. Il y a aussi des cadeaux qui ne sont pas forcément spectaculaires dans les faits, mais qui sont spectaculaires nominalement. Par exemple, l'augmentation qui a été assez forte de l'indemnité légale de licenciement, qui a été offerte dès le début du mois de septembre, si je me rappelle bien. Et puis, vous avez quelque chose qui parle beaucoup à la jeune génération, qui est la possibilité de se mettre au chômage, entre guillemets, tous les 5 ans. Tout ça, ça m'amène à mon quatrième et dernier point, je vous rassure, on est dans un autre monde. C'est-à-dire que, moi, ça n'est pas vraiment le mien, mais je l'observe comme vous, on a aujourd'hui, dans la jeune génération, des attentes qui sont différentes. Et ces attentes sont plus compatibles avec le monde que fait advenir Macron, même si, à mon avis, encore une fois, les réformes ne sont pas très nerveuses, qu'elles l'auraient été avec les attentes des salariés d'il y a 20, 30, 50 ans, a fortiori. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens trouvent que une carrière continue et garantie comme étant continue par le droit, par la protection que donne le droit social, ça n'est plus quelque chose de fondamental sur lequel il est nécessaire de se battre. Il y a autre chose dans la tête des jeunes gens, dans leur vision de leur carrière, que cette espèce d'hyper-protection qu'assurait le droit du travail tel que nous le connaissons.
Jean-Marie Pernaut et Brice Couturier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Manière, notamment sur le caractère limité de cette réforme comme élément d'explication de la faible contestation? Jean-Marie Pernaut.
Là, on n'aura pas la même lecture du tout. D'abord, je pense que le code du travail tel qu'il était advenu au fil de transformations qui ne datent pas d'hier, parce que tout de même, s'il a tant grossi le code du travail, c'est parce qu'à chaque fois qu'on l'a réformé, on a rajouté 150, 200, voire 300 pages. Ce qui lui a donné cette allure grosse. Enfin, je ferme cette parenthèse parce que là, la complexité du code, on l'évoque plus du tout, hein, dans la réforme, parce que croyez-moi que ça va en rajouter
ça,
et
vrai.
Pas mal.
Ça, c'est
hein.
vrai.
Déjà, la loi El Khomri avait rajouté 150 pages. Là, ça va être encore pire. Mais après tout, le code du travail, pourquoi il serait simple? Est-ce que le code fiscal est simple? Est-ce que le code des affaires est simple? Enfin, bon. Tout ça est un peu de démagogie. Non, quand même, on change assez fondamentalement dans certains domaines. C'est-à-dire, si vous voulez, pour faire gros, dans beaucoup de domaines, on rend la main aux employeurs là où il y avait quand même des procédures disons, parfois sophistiquées, parfois un peu bureaucratiques, mais qui permettaient d'assurer quand même un certain échange. Moi, je vois quand même une rupture qui date de la loi El Khomri, notamment avec la sécurisation du rôle des syndicats. C'est-à-dire que depuis 2008, on a eu cette réforme de la représentativité, réforme aussi, d'ailleurs, de validation des accords sociaux. L'accord majoritaire devenait la règle. Et là, quand même, ce qui me frappe beaucoup dans la loi Macron, c'est qu'on a une certaine verticalité du pouvoir. Alors on sait que Macron est adepte de ça, dans l'organisation symbolique du pouvoir institutionnel, on le savait, mais là c'est une verticalité qui s'étend jusqu'au social. Parce que dans beaucoup de domaines, la loi Macron impose des choses qui auraient fort bien pu et qui avant relevaient la négociation collective.
Je vous donnerai un exemple. Jean-Marie Pernaut, c'est d'autant plus étonnant que les syndicats ne se soient pas davantage opposés à cette loi s'ils y perdent de leur pouvoir.
Oui, mais bon, il y a ceux qui s'y sont opposés très tôt, avant même d'en avoir totalement le contenu.
La CGT, par exemple.
Il y a ceux qui n'avaient pas du tout envie de s'y opposer parce que la CFDT s'est rentrée dans sa culture. Et puis, il y a FO au milieu qui, avec un dirigeant qu'on avait connu moins naïf, disons, et puis qui s'est retrouvé en porte-à-faux avec ses troupes. Et donc, voilà. Donc, pourquoi votre fille est muette? En gros, on a fait à gros traits le fait que les adversaires se sont montrés pas à la hauteur, cette fois-ci, hein, ce qui était assez facile. Mais je prends un exemple. La fusion des institutions représentatives du personnel, ça, excusez-moi, mais dans la vie réelle, ça a d'énormes incidences. Alors, est-ce que c'est absurde? Non. Il y a des endroits où ça avait du sens. Il y en a d'autres où ça en a un, mais pas le même. Et d'ailleurs, il ne s'était pas demandé par les entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui n'ont pas du tout une organisation adaptée à ça, qui ont fusionné, centralisé leur comité d'entreprise, mais qui ont besoin de ces HSCT dans leurs établissements, plus près du terrain. Et d'avoir imposé, c'est très surprenant, parce que c'est un acte d'autorité, d'imposer, y compris aux entreprises, une forme d'organisation des institutions représentatives qui aurait fort bien pu être réglée par la négociation d'entreprise elle-même.
Voilà, Brescouturier, rupture ou pas rupture?
Bon, par rapport à ce que Macron... Moi, j'ai écrit un bouquin sur Macron, philosophe, qui vient de sortir. Par rapport à ce que Macron disait...
Petite autopromo, voilà, en passant.
Par rapport à ce que Macron annonçait dans ses programmes, dans sa philosophie générale de la politique, c'est très en retrait. On est très, très loin du contrat unique de travail. Hein. C'est moi qu'on puisse dire, il y a toujours le CDD et le CDI, qui est un des scandales français, puisqu'en réalité, on fait porter la flexibilité, le poids de l'adaptation sur les travailleurs les plus précaires, et ça reste encore là. Il avait aussi parlé d'aligner le statut de la fonction publique sur celui du privé. Mon Dieu, on en est très très loin, sinon effectivement ça serait la révolution. Non, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de flexibiliser le marché du travail tout simplement en facilitant légèrement les licenciements de manière à ce que les entreprises aient intérêt et envie d'embaucher, parce qu'on sait bien que il y a un rapport évident entre le fait que si vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos salariés quand ils vous posent problème ou que vous n'avez plus de post-carnet de commandes est vide, vous aurez moins tendance à embaucher et plus tendance précisément à aller chercher des précaires, des intérimaires. Hein. Il y avait ça. Il y avait le plafonnement des indemnités parce que ça crée une grande incertitude pour les entreprises si elles ne savent pas à quoi elles s'exposent en cas de licenciement litigieux. Bon, ce plafonnement est limité à 15 mois. C'est pas mal. Et puis il y avait surtout l'idée de décentraliser la négociation. Très longtemps, on a eu ces négociations patronat, gouvernement, syndicat à Matignon, ces grandes messes syndicales au cours duquel on décidait pour l'ensemble des entreprises, alors même que chaque entreprise a des problèmes extrêmement spécifiques et particuliers. Là, on a décentralisé le niveau de la négociation. On l'a surtout fait au niveau de la branche,
oui,
en réalité. Parce que ce que Macron avait annoncé dans son programme, c'était décentraliser jusqu'au niveau de l'entreprise elle-même. Et ça, c'est fini. C'est complètement abandonné.
Sauf que Brice Couturier, vous dites on a décentralisé la négociation. Il y a quand même eu négociation ou à tout le moins concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales. Ça a duré 4 mois. Est-ce que...
je parle du contrat, du contenu de la loi.
J'entends bien, mais moi je suis sur la méthode parce que je vous rappelle quand même ce que je vous ai dit au début. On parle surtout ce soir...
Si on veut parler du fond, on va revenir lundi.
On peut parler du fond et pas de la...
Non, évidemment qu'on parle des deux, mais je voudrais quand même aussi qu'on reste sur la question de la forme parce qu'elle est importante aujourd'hui dans la politique contractuelle. Est-ce que s'il y a retrait, d'après vous, Brice Couturier, par rapport aux intentions initiales qui étaient celles d'Emmanuel Macron, est-ce que vous y voyez aussi l'effet, peut-être justement, de cette concertation qui a eu lieu avec les syndicats qui auraient permis justement à certaines organisations d'obtenir quelques garanties ou quelques petites choses par rapport au projet d'Emmanuel Macron.
Quoi qu'étant auteur d'un livre consacré à Macron, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne suis pas dans sa tête. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une méthode des petits pas qui consiste à
réformer radicalement. Il ne s'agit pas d'être dans sa tête, il s'agit de constater si la concertation, elle a eu un effet ou pas sur le contenu de la loi. Philippe Manière.
Oui, moi je suis assez sensible à ce que disait Jean-Marie Duhaut à l'instant, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est comment ça se passera sur le terrain. Et dans certains cas, effectivement, c'est un recul en termes de commodité. Alors, vous avez complètement raison sur les CHSCT qui sont beaucoup plus pertinents sur un lieu que dans le cadre d'une entreprise en général. Mais ça m'amène à commenter aussi cet ensemble de réformes du point de vue justement de à qui elles s'adressent. Pour une grande entreprise, ce que vous venez de décrire a des inconvénients. Symétriquement, il y a beaucoup de cas où la réforme est utile aux grandes entreprises et pas tellement aux petites. Enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde et donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits. Ça oui, aussi,
pourquoi
ça a
ne
été...
pas leur laisser le soin de choisir.
Mais je suis d'accord avec vous et c'est là où je pense que.
C'est
là
où je pense que. Qu'ils
je suis d'accord, mais je pense que là où on aurait pu leur laisser ce choix, tout à fait.
Oui, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait
pourquoi
parce que c'était
fait,
le cas dans la loi précédente.
Je pense que c'est la verticalité du
cas.
Pouvoir et la volonté de dire regardez, maintenant c'est différent. Il y a une grande volonté chez Emmanuel Macron, toujours, dans tout ce qu'il fait et en particulier là, d'envoyer le signal c'était différent avant, grâce à moi c'est complètement autre chose. Et c'est vraiment, c'est très important pour lui de montrer qu'il a changé les choses. Enfin, je crois qu'il ne les change pas beaucoup, en l'occurrence, sur le fond. J'ai là-dessus évoqué le cas, par exemple, du plafonnement des indemnités de licenciement, de la barémisation, en tout cas. Je ne crois pas que sur le terrain, parce que je crois que votre argument est le bon, il faut voir ce qui se passe sur le terrain, je ne crois pas que ça va changer grand-chose, mais on peut nominalement dire, regardez, j'ai tout changé. Alors pourquoi ça ne va pas changer grand-chose, par exemple, cette question de barémisation ? D'abord, quand vous regardez les jugements, enfin les condamnations qui ont été prononcées contre des employeurs par les prud'hommes au fil du temps, vous constatez qu'à peu près 95% sont couvertes par le barème. Donc ça va pas, ça met un plafond. On est sûr, du point de vue de l'entreprise, que on va pas avoir des trucs complètement dingues, parce qu'il y avait parfois au fil des appels, etc. On finissait par des condamnations complètement dingues. Mais enfin, 95% des choses vont tomber à peu près là où elles seraient tombées. Donc du point de vue de l'employeur, qu'est-ce que ça peut me faire de payer 3 mois ou 6 mois parce que je suis condamné par un juge ou parce que c'est dans un barème? Ça change pas grand-chose. C'est toujours 3 mois ou 6 mois. On gagne un peu en prévisibilité, donc c'est un petit progrès. À cela près que, et on peut le comprendre, deux catégories de contentieux sont exclues du barème, le harcèlement et la discrimination. Alors, bien sûr, tout le monde est d'accord en principe. Le problème, c'est que si vous parlez avec un avocat en droit social, il vous dira que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y aura plus que des conflits pour cause de ségrégation ou de harcèlement. Parce qu'évidemment, c'est normal, si vous laissez une porte de sortie à l'une des deux parties, elle va se jeter sur cette porte de sortie. Et moi, je vous fiche mon billet que quand on regardera, et je reprends votre argument, monsieur, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, on constatera qu'il n'y aura pas beaucoup de différence dans la pratique sur ce sujet, parce que tout le monde aura évidemment utilisé la petite porte qui a été laissée ouverte. Je ne prétends pas qu'il fallait la fermer, cette porte. Je dis simplement que après la réforme, ce ne sera pas bien différent d'avant la réforme.
C'est sur le terrain, donc on va juger de l'avancée de la réforme, Jean-Marie Pernaud.
Sur ce sujet-là, vous oubliez la réduction, la division par deux du délai de saisine. Et que passer de 2 ans à 1 an, ça a un très gros effet. Ça va faire tomber pas mal de recours. Parce qu'il y a
la plupart
de gens,
des recours arrivent
après,
quand même assez
non,
vite
c'est
après
pas vrai.
Un conflit.
Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont le temps nécessaire pour digérer, se reconstruire, etc. avant de se poser la question.
Non, mais il y en a, mais c'est pas la majorité.
Vous allez voir, il y a énormément de cas qui vont tomber là-dessous. Autrement, pour le reste, je suis pas loin de vous rejoindre sur cet aspect-là.
Oui, sur
de la règle. Sur la question de branche entreprise, ça c'est de l'artifice. Enfin, il faut regarder dans le cœur des choses. On est dans de l'habillage. On a profondément transformé l'articulation branche-entreprise. Certains disent qu'on a inversé la hiérarchie des normes. Je ne prends pas à mon compte cette description. On a en revanche organisé des domaines séparés dans lesquels l'entreprise et la branche ont à voir, mais plus dans un rapport hiérarchique. Ce qui restait dans les branches, très honnêtement, c'est pas grand-chose. C'est ce qu'il y avait déjà. En revanche, c'est ce qu'il y avait déjà, plus quelques éléments. Enfin, ce qui reste de la pénibilité, quelques points qui étaient disséminés ici ou là, c'est fort peu de choses. En revanche,
des éléments de rémunération. Enfin, c'est.
Oui, enfin,
vous savez ce que du point de
non,
vue
non, non,
du,
non,
du
les
point
primes,
de vue de l'employeur, ce que décide la branche,
les
c'est un truc qui tombe du ciel. C'est comme la loi.
Les primes sont pas dans les branches. Mais regardez par exemple, il y a le conflit emblématique, parce qu'on va en avoir d'autres, celui des routiers. Il était très intéressant à cet égard. Il portait justement sur cette question-là. C'est un secteur, quand même, 860 000 salariés. Hein, c'est du bon, parce que les routiers, c'est les convoyeurs de fond, c'est les cars scolaires, etc. Ça fait du monde. C'est 80% des entreprises de moins de 20. Or, dans ce secteur-là, dans la discussion qu'il y a eu entre les employeurs et les syndicats, tout le monde souhaitait maintenir un certain nombre d'éléments au niveau de la branche, notamment des éléments d'heures supplémentaires, d'indemnités, etc. Ils se sont mis d'accord en 2 heures là-dessus, le matin. Il a fallu la journée pour convaincre les pouvoirs publics de laisser cet accord, de laisser remonter dans la branche un certain nombre d'éléments. Là encore, on a un effet d'autoritarisme. Pourquoi une branche qui se met d'accord pour situer à son propre niveau un certain nombre de règles parce qu'elle a un tissu d'entreprise extrêmement disséminé, pourquoi obliger, et ils ont fini par renoncer, enfin par accepter ça, parce qu'évidemment les routiers, ça a des capacités de nuisance. Bon, les dockers ont fait pareil derrière, ils ont obtenu la même chose. Bon, il vaut mieux conduire des poids lourds que vendre des croissants, hein, pour avoir du poids politique. Bon, donc là, on a quand même un problème. Pourquoi est-ce qu'en caporalisant le social, on va donner la souplesse à notre tissu d'entreprise? Moi, je suis absolument pas certain. En tout cas, ça tranche avec les options dites libérales qu'on nous présente volontiers.
Sans pénétrer dans l'esprit d'Emmanuel Macron, Brice Couturier, mais sur ce caporalisme là. Qui se traduirait dans la façon justement dont a été menée cette réforme.
Oui, c'est bien vu. Enfin non, c'est bien vu sur ce qu'on vient de dire, parce qu'effectivement, le côté jupitérien de la gouvernance Macron, là, on voit bien que quelque part, elle tombe sur un bec. Il y avait moyen, effectivement, que l'État se dessaisisse et laisse les partenaires sociaux décider entre eux. Ils en étaient capables et l'État ne l'a pas voulu. Donc effectivement, il y a un aspect autoritaire qui va poser problème.
C'est quoi ? Il y a une défiance à l'égard des partenaires sociaux ?
Probablement. Regardez ce qui se passe également dans le domaine de la reprise en main de la sécurité sociale, de l'indemnisation du chômage, que l'État Macron a dit très clairement veut reprendre en main et reprendre entre les mains des partenaires sociaux. Donc il y a une volonté très claire du gouvernement actuel, enfin du président de la République, pour dire les choses très clairement, de reprendre en main un certain nombre de dossiers.
Donc il y a quand même bien une anomalie dans le fait de voir que les organisations syndicales réagissent finalement aussi peu, ou en tout cas aussi mal, et de manière aussi désordonnée par rapport à ça.
Parce qu'elles sont très faibles, cher ami. Elles sont terriblement affaiblies. Regardez le nombre de gens, le taux de syndicalisation en France est à peu près grotesque. Et en plus, les syndicats sont divisés entre un nombre de centrales extravagant. Donc il est très facile pour le pouvoir de les jouer les unes contre les autres, ces fameuses centrales. On l'a bien vu. Quand Sarkozy jouait le jeu de la CGT et que Hollande jouait celle de la CFDT, on accuse en ce moment Macron de jouer celui de Force ouvrière. Je ne sais pas ce qui est faux, vrai ou faux, vous savez mieux que moi. Moi, je ne sais pas dans le secret des dieux, mais enfin, il y a toujours eu ce jeu des gouvernements avec un syndicat qu'ils ont favorisé par rapport aux autres. Et jouer la division entre les syndicats, c'est toujours une carte intelligente quand ils sont eux-mêmes extraordinairement faibles.
Philippe Manière.
Non, il faut être honnête. Moi, je regrette, comme je crois tous les autres intervenants ce soir, qu'il y ait cette espèce de verticalité, de caporalisation. Mais en même temps, il faut tout de même regarder les choses en face. Cette histoire de partenaires sociaux, c'est largement du théâtre. Brice vient de faire allusion au manque de représentativité des organisations syndicale. C'est encore plus vrai si on retient le secteur marchand, parce que dans le secteur marchand, le taux de syndicalisation est encore plus faible. Mais enfin, c'est la même chose pour les organisations patronales. 10 ou 15% des entreprises seulement sont adhérentes d'une manière ou d'une autre au MEDEF ou à la CGPME, enfin CEPME maintenant, et beaucoup ne le savent même pas. Beaucoup de ceux qui sont adhérents ne le savent même pas. Donc on est dans un univers complètement de fiction. Il faut bien savoir que dans beaucoup de cas, c'est le ministre du Travail lui-même qui, dans certains cas, est obligé non pas seulement, ce qui est un truc très bizarre à mes yeux, d'étendre un accord de branche, ça c'est la loi qui l'y autorise, mais que même il le négocie pour le compte de la branche parce qu'il n'y a pas les compétences. Il y a des branches toutes petites avec personne dedans, enfin personne capable de négocier, et c'est le ministère du Travail qui, de toute éternité, fait le boulot pour eux. Donc oui, ce serait mieux s'il y avait des partenaires sociaux solides, responsables, qui puissent négocier. Si j'avais une baguette magique, évidemment je l'utiliserais à cette fin, mais tant qu'on n'a pas de baguette magique, on fait avec ce qu'on a, et il faut bien reconnaître que même si, à mes yeux, effectivement, il y a une verticalité excessive et une reprise en main par le pouvoir qui n'était pas strictement utile, surtout quand on raconte du matin au soir qu'on veut que les partenaires sociaux négocient, mais en même temps, pour faire du Macron, mais en même temps, pour qu'ils négocient, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient représentatifs, il faut qu'ils aient des compétences, et souvent, il n'y en a pas.
Donc s'il y a verticalité, c'est à cause de la faiblesse des partenaires sociaux ?
Pas que.
Jean-Marie Pernaut.
Ça, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que certains prétendent aussi que si les interlocuteurs sociaux ont une faible densité, c'est parce que l'État occupe historiquement une place très importante dans le social, beaucoup plus que dans d'autres pays, ce qui n'empêche pas les syndicats ailleurs de s'affaiblir également, par parenthèse. Parce que, bon, je tomberai pas dans cette caricature, parce qu'il y a des branches, l'univers des branches est extrêmement divers. Et toute généralisation n'a aucun sens dans ce domaine. Il y a des branches qui sont anciennes, qui ont l'habitude, qui négocient avec des interlocuteurs qui connaissent leur dossier.
Tous l'univers de lui-même, évidemment.
Par exemple, mais il y en a d'autres, dans la chimie, dans la plasturgie, dans tout un tas de domaines, vous avez des interlocuteurs constitués qui ont une longue histoire et qui savent où il faut aller et où il ne faut pas aller. Et puis il y a des jeunes branches, je pense aux télécommunications, par exemple. Avant, c'était France Télécom. Aujourd'hui, on a un univers, évidemment, beaucoup plus divers, avec des centres d'appel, avec etc. Et là, la branche qui s'est mise en place, elle a servi à structurer cet univers. Et la branche peut être quelque chose qui aide à structurer un secteur en développement. Aujourd'hui, par exemple, on aurait une branche dans le secteur du transport qui gère les questions de Uber, de Deliveroo, etc. Toutes ces plateformes qui se mettent en place sans aucune norme sociale, dans un désordre effroyable, une concurrence dont, évidemment, les travailleurs dits indépendants feront les frais. On aurait un peu de normalisation de ce secteur. Ça serait pas forcément idiot et ça aiderait à structurer des secteurs économiques où on pourrait donner de la formation autre qu'apprendre aux chauffeurs à griller les feux rouges pour aller plus vite.
Un peu caricatural.
Bah, écoutez,
mais en tout cas, il ne peut pas y avoir de branche tant qu'il n'y a pas de salariés. Et ça sera sans doute requalifié, à mon avis. Mais tant qu'il n'y a pas de requalification, il n'y a pas de salariés, donc il n'y a pas de branche.
Voilà. Oui, mais enfin, on pourrait commencer par un endroit et justement, après, requalifier en collant les gens dans cette branche-là. De toute façon, il y a un travail qui est entamé depuis plusieurs années de resserrement des branches, de les mettre en place. Bon, on pourrait en discuter du détail, mais toute généralisation sur les branches est excessive, y compris d'ailleurs celle que je viens de formuler. il faut faire attention dans les. Y compris sur les syndicats. Il y a des endroits où ils sont très faibles, il y a d'autres endroits où ils ne sont pas si ridicules que ça. Je vois dans la grande distribution, les Allemands, ils n'y sont pas. Les syndicats allemands n'arrivent pas à pénétrer chez Lidl, par exemple. Bon, et j'ai une collègue allemande qui est venue voir en France comment les syndicats faisaient. Alors, ils n'ont pas 80% de syndiqués chez Lidl. Il y a 12-14% de syndiqués chez Lidl. C'est pas ridicule. Avec ça, vous faites de l'activité syndicale. Surtout qu'en France, je suis désolé, mais il n'y a absolument aucun intérêt à être syndiqué. Mais aucun, aucun. Ailleurs, vous trouverez des incitations.
Dans la fonction publique, c'est pas inutile pour votre avancement.
Ça, c'est du passé. C'est du passé. Écoutez, à part quelques
fonctionnaires. Les commissions mixtes paritaires, franchement.
Non. Dans les commissions paritaires, le temps où ça servait de booster de carrière est terminé.
Ça vous sert de protection.
Avec le resserrement des progressions de carrière, de toute façon, ce système-là ne fonctionne plus depuis bien longtemps.
Bon, alors, on va continuer un petit peu dans la généralisation. Enfin, peut-être que ça, elle le sera. Moins. On a parlé d'acteurs essentiels dans cette question, dans la façon dont la loi travail a été négociée, puis votée, même si le vote définitif n'a pas encore eu lieu. Hein. C'est mardi à l'Assemblée nationale, ça va être une formalité.
Pas un suspense écrasant.
A priori, voilà, ça devrait passer. Et ensuite, ce sera au Sénat. On a parlé du gouvernement, donc de la majorité. On a parlé des partenaires sociaux. On n'a pas parlé d'un acteur qui devrait quand même peser, malgré tout, c'est l'opposition. L'opposition. Où est passée l'opposition sur la loi travail, Brice Couturier ou Philippe Manière? Je ne sais pas lequel des deux veut parler.
Brice Couturier. Oui, l'opposition, elle est en parfaite déconfiture. Et pour cause, que voulez-vous que le centre-droit dise quand on applique sa politique? On ne va pas descendre dans la rue avec les syndicats.
Pas sa politique, mais ce qu'il dit qu'il faut faire.
Oui, bon.
La même chose.
Quant au Parti Socialiste, qu'est-ce qu'il en reste en réalité? Sur quoi se bat le Parti Socialiste? En réalité, il n'est plus une force de proposition, il n'est qu'une force d'opposition à deux choses. Il n'est ni Macron ni Mélenchon, comme disait Aquilady, mais il n'est nulle part en réalité.
Il est quand même une force de proposition, parce que j'ai lu dans Le Monde d'aujourd'hui qu'il y avait un amendement proposé par le groupe socialiste qui avait été adopté dans le cadre de ces ordonnances. Je ne saurais plus vous dire sur quel sujet précisément.
Bah c'est une bonne nouvelle.
Voilà.
Que le groupe socialiste soit arrivé à l'Assemblée nationale à se mettre d'accord sur un amendement.
Ça ne doit pas être une grosse affaire.
Ça a dû demander beaucoup de négociations. De couloir, parce que aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement divisé. Non, la grande chance de Macron, ce qui fait que il va peut-être réussir là où Matteo Renzi a échoué, parce que c'est un petit peu le même phénomène et le même genre de personnage, c'est qu'effectivement il est face à une opposition qui est en complète déconfiture, qui est extraordinairement divisée et qui ne représente, enfin Macron lui-même a été élu avec une minorité en réalité, il a pas une majorité.
Ça c'est bien la première fois que je vous entends dire ça.
Je constate, il y a pas je pense que le pays est plus en attente que dans l'adhésion. Le pays attend de voir si effectivement les mesures dont Macron lui dit qu'elles vont réduire le chômage, si ces mesures sont effectives ou pas. Et pour l'instant, il y a une grande passivité parce qu'il y a une grande attente. Chacun sait que ce pays est extraordinairement malade, qu'il est malade depuis très longtemps et qu'il est malade en particulier parce qu'il n'y a aucune flexibilité, parce que... c'est ce que
comment,
je pense.
Comment dire une chose pareille? Écoutez, regardez la société. société française et le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il était il y a 30 ans.
Ah bah c'est sûr qu'on a fait quelques progrès, mais par rapport aux Suisses, aux Anglais, aux Autrichiens,
profondément transformé.
Dans ces pays,
cette image donnée d'un pays qui serait en ruine, c'est dramatiser une situation pour justifier les plus grandes horreurs. Alors qu'il y a des problèmes, on le sait, bien entendu, ils sont identifiés, les problèmes de l'emploi, les problèmes de la pauvreté qui s'étend, etc. Oui, bah mais enfin, oui. Vous savez, si les problèmes de l'emploi étaient résumables par la question du code du travail, ça serait quand même extrêmement facile.
Pour moi,
même l'OCDE commence à dire maintenant que c'est pas le sujet, mais si on prenait,
c'est le chômage. Absolument. Quand vous avez 10% de chômeurs dans un pays, ça veut dire que personne n'ose plus bouger, que personne n'ose plus changer de travail, que les patrons ne veulent plus embaucher. C'est un blocage intégral. Le chômage, c'est une catastrophe. Et c'est ça, c'est là-dessus que Macron sera jugé. Et encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est pas une calamité. Vous avez plein de pays en Europe qui sont tombés en dessous de 5% de chômage, notamment les Autrichiens, les Allemands, etc. Donc c'est possible. Les Suisses, et c'est des pays qui, comme par hasard, connaissent des codes du travail, enfin pas les Allemands, mais les Suisses, oui, des codes du travail extraordinairement légers, une très grande flexibilité.
De travail en Suisse ne sont pas légères.
Travail, il fait 43 pages.
Oui, mais ça n'a aucune importance. C'est pas là que ça se joue. Il n'y a pas de code du travail en Suisse.
Il n'y a pas de code du travail.
Donc, ne disons pas qu'il est mince. Oui, mais le code du travail, c'est l'agrégation de toutes les lois du travail. C'est rien d'autre que ça. Et en Suisse, il y a beaucoup de lois qui encadrent le travail, simplement. On ne les a pas mises dans un seul bouquin.
Sous prétexte de nous protéger, on nous a condamnés au chômage. Et on nous a condamnés au chômage, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut plus bouger. Et là, je pense que s'il y a une philosophie macronienne, c'est effectivement celle d'une mobilité, celle d'équiper les gens avec des compétences en amont.
Quelle est la flexibilité dans l'industrie allemande? Vous allez m'expliquer comment ça marche dans l'industrie allemande et pourquoi l'industrie en Allemagne, c'est 20% de l'emploi et que c'est 10% en France. Et pourquoi c'est les groupes allemands qui rachètent les groupes français? Et pourquoi nos groupes sont entièrement externalisés alors que le Standort allemand permet de rapatrier des emplois en Allemagne, permet de conserver lorsqu'il y a
un trou... La délocalisation de l'industrie allemande en République tchèque et en Pologne, c'est
bien
pas
sûr,
rien non plus.
Bien sûr, mais on remonte en Allemagne ce que font pas les nôtres. Et si vous voulez, franchement, si le code du travail était l'explication de nos difficultés économiques, ça serait singulièrement facile à régler. Il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Je crois que c'est une pure illusion.
Échange passionnant entre Brice Couturier et Jean-Marie Pernaud, mais n'oublions pas que Philippe Manière est là également.
Je ne vais pas essayer de mettre tout le monde d'accord, mais le problème du travail en est un. C'est un problème. Il explique pour partie les difficultés de l'industrie française et de l'économie française, et en particulier le taux de chômage, mais il n'est évidemment pas l'explication ultime, ni même unique. Principale, on pourrait le plaider, et encore ça se discute. Mais c'est un tellement important sujet qu'il est normal de le traiter. Je voudrais revenir juste un instant sur ce que disait Brice à l'instant sur l'objectif d'Emmanuel Macron de réduire le chômage, qui est infiniment légitime. C'était celui de tous ses prédécesseurs, au passage. Mais lui, il fait une analyse un peu différente. C'est-à-dire qu'il est prêt à changer des choses qui étaient difficiles à changer jusqu'alors au nom du chômage. Alors, est-ce qu'il va y arriver? Oui, il va y arriver forcément. Il va y arriver forcément, mais ça ne sera pas sa faute. C'est-à-dire que, vous savez, en France, on a tendance à confondre concomitance et causalité. Le chômage baisse, donc le chef est bon. Et je reviens sur ma fameuse formule qui me paraît résumée à la vie politique en général. C'est la posture préférée de l'homme politique, c'est sans me vanter, il fait beau. Eh bien, il va bientôt pouvoir dire sans me vanter, il fait beau. Parce que la conjoncture, le cycle, qui est très retardé d'ailleurs en Europe, on a beaucoup tardé à sortir de la crise, va nous être favorable. Et sauf accident, il peut y avoir un accident, mais sauf accident, le chômage, tout seul, pas du tout grâce à Macron, un peu grâce aux dernières mesures de correction de François Hollande qui vont finir par faire leur effet, je pense en particulier au CICE, le chômage va probablement baisser de 9 à 7% dans les 3-4 ans qui viennent.
Donc la réforme,
la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation, et je pense que la réforme du code du travail, aussi légère soit-elle à mes yeux, va également dans le bon sens, mais les fruits en seront cueillis dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, pas maintenant. Et donc, il a beaucoup de chance, comme il en a toujours eu d'ailleurs, puisqu'il peut manifester son activisme. À mon avis, il est plus activiste qu'actif, mais c'est une autre question, on l'a abordé un peu tout à l'heure, manifester son activisme, en obtenir une forme de récompense visible et palpable parce que le chômage va baisser. Tout le monde va naturellement, parce que c'est intuitif, dire le chômage baisse, Macron est là, c'est donc que le chômage baisse parce que Macron est là. Ça ne sera pas vrai, mais il en bénéficiera complètement. Sauf, encore une fois, risque d'accident exogène, mais on peut pas raisonner sur cette base. Donc voilà, il attaque le chômage de la bonne manière, c'est pas lui... qui expliquera la baisse du chômage qui va advenir, mais il aura emporté cette victoire apparente et, il faut quand même être honnête, il aura probablement travaillé à ce que le chômage continue à baisser plus tard ou à ce qu'il ne remonte pas au prochain accident parce que ces réformes de structure sont utiles à ça principalement. Mais leurs bénéfices sont toujours, toujours différés et sensiblement différés.
Alors je ne sais pas si avec cette intervention vous aurez réussi à réconcilier Jean-Marie Pernaut et Brice Couturier, mais en tout cas ce sera la conclusion pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Marie Pernaut, donc Philippe Manière et Brice Couturier, discussion qu'on peut retrouver comme chaque jour sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également commenter l'émission sur le fil Twitter ou nous écrire directement. Vous pouvez nous envoyer des mails. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Fanny Richer, Antoine Tricot et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Louis Deloncle, Pierrick Charles et Ibrahim Célien. Arnaud Laporte, la dispute, c'est dans un court instant, toujours au bar Le Bel Air à Radio France.
Dans un court instant, j'ai la pendule dans le dos, donc ça va être dur pour donner les titres du journal à la
bonne heure. Vous avez 20 secondes avant
19h. Vous allez me passer, Hervé. Et avant ça, regardez, vous allez me dire ce qui va se passer dans politique demain à midi sur France Culture.
Demain, on va parler de l'insoumission et de l'insoumission en démocratie à la faveur de la convention de la France Insoumise qui se tient ce week-end à Clermont-Ferrand. On en discutera avec le sociologue Manuel Cervera-Marzal.